بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. شفاء الإسلام، nous allons faire un petit récapitulatif du sourate Al-Infitar qu'on avait commencé durant le mois de Rajab et qu'on avait continué durant le mois de Sha'ban jusqu'à une semaine avant le mois de Ramadan. Et il me semble qu'on n'avait pas complété le sourate Al-Infitar, il restait 4 ou 5 versets. Et plutôt que de reprendre les derniers versets d'un sourate qui sont un petit peu hors contexte, on refait un petit récapitulatif rapide des différents points qui ont été vus dans le sourate Al-Infitar pour pouvoir conclure avec les 5 derniers versets, Inch'Allah. Dans les 5 premiers versets, Allah Azza wa Jal annonce ou donne une description de la fin des temps, quand le ciel se rompra et que les étoiles se disperseront et que les mers confondront leurs eaux et que les tombeaux seront bouleversés. Il y a là quatre signes, il y a là quatre alamat, quatre signes de la fin des temps, c'est-à-dire la destruction de ce dunya. Quand Allah Azza wa Jal va changer ce dunya, يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ. Quand cette terre sera anéantie, pour qu'Allah Azza wa Jal prépare une autre terre, un autre endroit, une autre surface pour accueillir l'humanité. C'est la fin du monde. Donc, les signes qui sont cités dans le verset sont en rapport avec le ciel, avec les étoiles, avec les mers. Ces trois signes-là sont visibles des yeux humains, constatables par les faits, par l'expérience, on va dire, donc par les faits scientifiques. Maintenant, la notion de ciel, on avait vu dans tous les sourates, tous les chapitres qui commencent par Idha Samaa, on avait vu que le ciel, c'est une notion abstraite pour les scientifiques. Pour les scientifiques, le ciel n'existe pas. C'est un reflet, c'est quelque chose qu'on voit. Mais nous savons, avec nos croyances, nos aqidas, qu'Allah Azza wa Jal a créé 7 cieux. Et que les cieux, chaque ciel représente, on va dire, un monde avec des personnes qui habitent et une porte, une entrée qui est gardée par des malaïkas. Et on a vu dans le hadith du voyage nocturne, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté avec l'ange Jibril alayhi salam, à chaque porte du ciel, les anges demandaient qui t'accompagne. Et lorsque Jibril annonçait que c'était le prophète Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, les anges étaient heureux de pouvoir enfin accueillir la personne qu'ils attendaient depuis si longtemps. Donc, nos aqidas, nous en tant que musulmans, c'est que le ciel existe et que chaque ciel est habité par un nombre extraordinaire, inestimable de malaïka. On va essayer de se rapprocher un petit peu. Il y aura plus de baraka dans la majlis, Inch'Allah. Et je ne sais pas si on avait expliqué ici ou dans d'autres assemblées, c'est dans notre assemblée concernant le mahshar, la résurrection. Quand on parle de la résurrection, à un certain moment, il y a, bon, après les différentes étapes, vous savez que la résurrection, ces différentes étapes, c'est les âmes qui retournent dans les corps qui se reconstituent, les arwah qui retournent dans les âmes, les gens qui se réveillent, qui voient Ardul Mahshar, ensuite il y a le grand rassemblement et ainsi de suite. À un moment donné, les gens entendent un bruit assourdissant qui vient au-dessus d'eux. C'est le ciel qui se fend, qui se fracasse et Allah Azza wa Jal ordonne aux malaïka de descendre. Et les anges vont se mettre en cercle, les anges du premier ciel, deuxième, troisième, jusqu'aux anges du septième ciel. Et juste description quantitative de la quantité de malaïka qui habitent le premier ciel, c'est-à-dire Sama ou Dunya, il est dit qu'ils sont plus nombreux que toute la population des ins et des djinns réunis. Et quand on parle de tous les ins et les djinns qui seront réunis le jour du Mahjar, c'est depuis Adam, alayhi salam, jusqu'au dernier homme. Et du premier djinn qui a été créé avant Adam, alayhi salam, jusqu'au dernier. On parle même plus de milliards. Allah seul sait quel est le nombre de créatures que lui-même a créées, qui ont peuplé et qui peupleront ce dunya. Et les anges qui descendent sont encore plus nombreux que cette population qui est réunie sur la terre du mahshar. Et lorsque les anges du deuxième ciel descendent, il est dit dans les hadiths que les anges du deuxième ciel sont encore plus nombreux que les anges du premier ciel, et ainsi de suite, le troisième encore plus nombreux. Bref, pour qu'on réalise que chaque ciel est habité par un nombre inestimable, incalculable de malaïka, d'anges. Donc, premier signe annoncé de Suratul Infitar, la rupture du ciel. Ça, c'est quelque chose qui ne peut pas être prouvé scientifiquement, parce que, comme on a dit, le ciel, pour les scientifiques, ça n'existe pas, d'accord? Et donc, rupture du ciel, c'est quelque chose qui peut être que accepté par Iman bil Ghaib, par la foi en l'invisible. Deuxième signe, wa idhal kawakibun tatharat, et que les étoiles se disperseront. Ça, on avait plus ou moins expliqué. Et vous savez que quand on parle de la planète Terre, hein, quand on analyse la planète Terre, on a l'impression que c'est gigantesque. Mais si on compare avec les autres planètes, même du système solaire, subhanallah, la Terre ne représente pas grand-chose. Maintenant, si on compare la Terre avec le Soleil, c'est un grain de sable, d'accord, ou un petit caillou. Si on compare la Terre avec les autres systèmes solaires, subhanallah, on se rend compte qu'on ne représente vraiment rien du tout. Il y avait une image sur Facebook, hein, parfois il y a des choses bien, qui explique donc la grosseur du soleil, des planètes, etc., etc. Et enfin la Terre, et enfin nous, est-ce qu'on habite pour qu'on prenne conscience qu'on n'est strictement rien. Qu'est-ce qu'on représente ? Subhanallah. Et donc les étoiles, hein, il y a des étoiles qui sont dans le système solaire, il y en a qui sont à l'extérieur du système solaire. Les étoiles, la plupart des étoiles sont plus grands, beaucoup plus grands que la Terre. Donc c'est des créatures d'Allah également, qui ont été créés donc pour des buts précis, mais lorsqu'Allah ordonne à ces étoiles qui sont magnifiques, qui sont gigantesques, qui sont des milliers d'années, des millions, Allah seul c'est peut-être des milliards d'années, ils ont été créés pour un but, lorsqu'Allah décide que le temps pour lequel ils ont été créés est terminé, leur mission est terminée et ils se dispersent. Et que les mers confondront leurs eaux. Dans certaines sources, dans certains versets qu'on verra dans d'autres sourates également, on parle des mers qui seront en ébullition. Les mers, hein, on ne parle même plus de fonte de glace ou le niveau de la mer qui va monter. Là, carrément, il y aura une telle chaleur que les mers vont se mettre à bouillir. Alors ça fait appel au ilm al-ghaib, la connaissance, le iman bil-ghaib. Que les tombeaux seront bouleversés. En commentaire, les Mufassirin disent que ay akhraja ma fiha min al-amwat hatta qamu lillahi azza wa jal. C'est-à-dire que la terre va recracher, va faire ressurgir tous les amwat, toutes les personnes qui étaient enterrées en son sein, afin que les personnes soient ressuscitées, retrouvent leur forme, leur corps et l'âme bientôt qui sera insufflée de nouveau dans ces corps pour qu'ils soient présentés devant Allah azza wa jal. C'est ce qu'on appelle la résurrection. Là, on va un petit peu vite. En commentaire, « فَهَذِهِ الْأُمُورُ الْأَرْبَعَةِ إِذَا حَصَلَتْ » Lorsque ces quatre signes auront lieu, à ce moment-là, « عَلِمَتْ نَفْسُمْ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ » Là, ça nous amène vers le cinquième verset. « Toute âme saura alors ce qu'elle a accompli, ce qu'elle a accompli et ce qu'elle a remis de faire à plus tard. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un passage dans un autre monde avec des signes, avec la création qui change. Non, le but de ce changement, le but de cette transition, c'est de passer à l'étape où les êtres humains vont maintenant prendre conscience de ce qu'ils ont fait, comme action bonne, comme mauvaise, parce qu'ils vont être présentés devant Allah. Toute âme saura alors ce qu'elle a accompli, c'est-à-dire dans ce dunya. C'est ça qu'on dit que ce dunya, c'est l'endroit où on accomplit les bonnes actions et là-haut, on voit le résultat ou alors les conséquences. D'où le verbe « alimat », toute âme saura alors. C'est-à-dire à ce moment-là, on prend conscience. Alors que dans notre rythme de vie, hein, la manière qu'on mène notre vie malheureusement, les péchés passent inaperçus. On accomplit des péchés au quotidien, d'accord ? Et chacun, il connaît sa vie et ses erreurs, ses manquements. Malheureusement, on accomplit des péchés au quotidien et on ne porte même pas attention à la gravité de ce péché. Il y a beaucoup de choses qu'on a presque rendues licites et quand on nous interpelle, attention, telle chose, c'est pas bon, ça c'est haram, attention mon frère ou ma soeur, on dit oui, mais ça fait partie de la vie de tous les jours. D'accord ? On ne rappellera jamais assez combien de fois on voit des messieurs faire la bise aux femmes. Hein, comme on racontait une fois, sort de la masjid, faire salat, le fajr en jamaat, une personne, ça va à la boulangerie, et il fait la bise, ou bien il donne la main, au nom de quoi ? C'est-à-dire des péchés. Et quand on rappelle à ces gens que ce n'est pas bien, ben, très souvent, bon, la personne ne le dit pas, mais c'est comme si qu'on a intégré ça, ça fait partie des habitudes, des traditions, il n'y a plus de péché. On n'a cité qu'un seul exemple, Allah seul sait le nombre de péchés qu'on cumule, hein, par rapport aux transactions financières, par rapport à ce qu'on écoute, par rapport à ce qu'on mange, par rapport à notre manière de penser, de parler, de nous comporter avec les gens. Et ça devient comme si c'était des choses tout à fait normales. On cautionne ces actions, on ne se rend pas compte de la gravité des péchés. Alors que le jour des comptes, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte, qu'on prend conscience que les actions que j'ai cumulées de ce dunya, c'était en fait des péchés. C'était des actions qui m'ont éloigné d'Allah, éloigné du Jannah et Allah musta'an rapproché de l'enfer. C'est à ce moment qu'on prend conscience. Également, celui qui a fait, mashallah, de bonnes actions. Il y a des fois, alhamdulillah, on fait de bonnes actions, mais on n'est pas vraiment conscient que ce que je suis en train de faire, c'est vraiment un cadeau de la part d'Allah. C'est vraiment tawfiq qu'Allah m'a accepté. Quelqu'un qui vient faire la salat al-isha en congrégation, c'est un ni'ma. Un bienfait de la part d'Allah. Combien de musulmans de ce quartier, comparé la salat al-isha ce soir avec la salat al-isha il y a un mois durant le mois de Ramadan, vous voyez la différence? Vous voyez le nombre de personnes qui ont eu le tawfiq avec istiqama, constance, fermeté d'être présent dans la maison d'Allah, alors que 40% de la masjid, de la population qui était là durant le mois béni, ben Allah, ils sont chez eux, en train de dîner à table, en train de regarder les autres choses. C'est-à-dire que nous, ce que nous faisons, alhamdulillah, c'est tawfiq, Allah nous accepte, et on doit être reconnaissant. Et on doit protéger les actions et prendre conscience que ce sont là des faveurs de la part d'Allah. Il y a des fois, on fait une bonne action, on voit quelqu'un qui a de la difficulté, on lui donne quelque chose à manger ou, d'accord, de l'argent, autre chose, on l'aide et puis on a oublié, nous. Mais Allah Azza wa Jal n'oublie pas. Allah Azza wa Jal n'oublie pas la moindre bonne action qu'on accomplit. Parce qu'Allah, il le sait avant tout. Et les anges sont là pour écrire. Et le jour des comptes, le croyant sera agréablement surpris, mashallah, en constatant, en voyant que pendant 70 ans, j'ai pu cumuler autant de salat, Allahu Akbar, autant de jeûnes, Allahu Akbar, autant de versets du Coran que j'ai lus. Quand on entend les hadiths que Alif, Lam, Mim, ce n'est pas un mot, mais Alif, ça te procure tant de hasanat, Lam, tant de hasanat, Mim, tant de hasanat. Et combien de fois, Allahu Akbar, on lit les versets jour après jour, parfois même les adhkars après la salat, on lit Atul Kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Al-Nas, on répète. Mais qu'on prenne conscience que tout ça, ce sont là des sources de récompenses ajib, extraordinaires, et que le jour des comptes, on se rendra compte de ces bonnes actions, et là, on sera heureux. Dans le hadith, il dit également, on ne veut pas trop sortir du sujet, mais il dit également que quand quelqu'un invoque Allah, demande dua, il y a différentes façons pour Allah d'accepter le dua. Il y a des fois où Allah vous donne, concrétise votre demande. Il y a des fois où Allah ne vous donne pas ce que vous demandez parce qu'il n'y a pas un bien, il n'y a pas un khair pour vous dedans. Et Allah, en compensation, on pourrait dire, il vous protège d'un malheur, d'un bala. Troisième cas de figure, Allah Azza wa Jalla ne vous accorde pas ce que vous demandez immédiatement, mais en compensation également, Allah vous accorde des hasanas, des bonnes actions, des récompenses. Parce que vous avez demandé du'a, Allah a décidé de ne pas vous donner ce que j'ai demandé pour avoir ce livre. Allah a décidé de ne pas me le donner, mais j'ai l'impression que comme je ne l'ai pas eu, ben il n'y a rien eu. Le doua a été demandé, puis c'est terminé. Na'oud billah, un doua qui est perdu. La wallah, rien n'est perdu. Aucune parole prononcée n'est perdue. Le doua dont je n'ai pas vu les résultats, Allah Azza wa Jal m'accorde des hasanat, des récompenses. Mais ce sont là des choses qu'on ne voit pas. On ne peut pas les toucher, palper, ni les reconnaître. Mais le jour des comptes, il est dit qu'une personne verra des montagnes et des montagnes de hasanat, de bonnes actions, et il dira, oh Allah, en ce sens, ces actions-là ne m'appartiennent pas. C'est-à-dire que là aussi, ça revient vers quelque chose qu'on avait cité dans d'autres tafsirs, que le jour des comptes, Allah Azza wa Jal donnera à chaque être humain la possibilité de connaître l'intégralité de sa vie. Une mémoire qui nous permet de reconnaître tout ce qu'on a fait, comme bonne action, mauvaise action, depuis qu'on est balayé jusqu'à la mort. Chose que personne ne peut pas retenir de ce dunya. D'accord ? Et donc, la personne va voir des actions, des bonnes actions, des récompenses, et il va reconnaître que ça, ce n'est pas des choses que j'ai fait. Dire, Wallah, ça ne m'appartient pas. Et on lui dira que ce sont là les récompenses qui t'ont été données pour les doigts que tu as fait de ce dunya. Et la personne, dans certains hadiths, certaines sources, continue, dit que la personne va souhaiter que si seulement de ce monde, aucun de mes invocations n'avait été accepté directement pour avoir autant de hasanat qui seront donc pesées dans al-mizan, dans la balance, le jour des comptes. Vous savez que le jour des comptes, il n'y a rien qui est plus important, qui est plus cher qu'un hasanat, une bonne action, qu'un subhanallah, un alhamdulillah, un Allahu Akbar. Et donc, alimat nafsum, à ce moment-là, on se rend compte de tout ce qu'on a fait. Les bonnes choses, comme les mauvaises choses. D'où le verset également, « Faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara » Celui qui a fait un atome iota de bonne action le verra. Et pareil, « Sharran yara » Celui qui a fait un atome ou un iota, un tout petit péché, également le verra. Donc ça c'est, là, on passe au signe de la destruction de ce dunya à la résurrection, avec « Wa idal qubur bu'thirat » On est à l'étape de la résurrection. Et « Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat » C'est l'étape où l'être humain voit le mahshar et se rend compte de ce qu'il a quand les livrets, les suhuf sont remis. Et là, la personne va comprendre quel a été le résultat de sa vie. Hada. Il y avait d'autres explications qu'on avait données avant, mais on ne va pas revenir, hein, la manière que les personnes, la manière dont la personne reçoit les livrets de compte, etc. C'est des choses qu'on avait déjà expliquées. Et les savants disent également, l'homme le plus heureux, c'est celui qui, lorsqu'il reçoit son livret de compte, il trouve dans son livret de compte ses 5 prières quotidiennes. Il trouve dans son livret de compte, tahajjud qiyamul layl, que tous les soirs, je me réveillais pour la prière de la nuit. Celui qui trouve ça dans son livret de compte, c'est l'homme le plus heureux le jour des comptes, le jour du mahshar. Celui qui, dans son livret de compte, il voit qu'il était assidu au jeûne, saum. Il faisait carême le lundi, le jeudi, mashallah. 13, 14, 15, tous les mois, mashallah. Des sunnahs de ma prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui a pris ses bonnes habitudes, il verra ses hasanat le jour des comptes, ses bonnes actions, il sera heureux. Celui qui a vu que durant toute sa vie, tous les ans, il jeûnait 6 tamin shawal. Allahu Akbar. Et vous savez, hadith très connu, que celui qui jeûne ses 6 shawal, après avoir fait son mois de ramadan, Allah lui accorde l'année passée en état de jeûne. Alors imaginez que depuis l'âge de 20 ans jusqu'à l'âge de 70 ans, tous les ans je fais mon 6 shawal. Ça veut dire que j'aurais passé ma vie en état de jeûne. Allahu Akbar. Celui qui découvre ça le jour des comptes, dites-moi mes chers frères, est-ce que ce n'est pas l'homme le plus heureux? Est-ce que ce n'est pas là la vie la plus aboutie, la plus accomplie? Celui qui, dans ce livret de compte, il découvre que régulièrement il donnait l'aumône, sadaqa, il venait en aide à son prochain, qu'il y a birrul walidain, le contentement de ses parents, le khidma de ses parents. Celui qui voit tout ça dans son livret de compte, c'est l'homme le plus heureux. Alors que celui qui a vécu dans ce dunya comme bon, il le semblait, avec ses idées, il se considérait comme un homme libre qui faisait ses choix et qui ne voulait pas être limité par une doctrine, une religion ou autre chose, ben la personne faisait l'adultère quand il le voulait, il mangeait ce qu'il voulait, il écoutait ce qu'il voulait, ben la personne trouvera l'intégralité de ses péchés dans son livret de compte, s'il n'a pas pu demander Tawbah à Allah Azza wa Jal. Et ce sera l'homme le plus chaqi, l'homme le plus malheureux le jour des comptes. Verset suivant, verset 6. « Ya ayyuhal insan » Ô être humain, ô homme. Et là, le message, le verset est adressé à toute personne. Ma gharraka bi rabbika al-karim. Qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur le noble? Dans ce verset, Allah Azza wa Jal interpelle la race humaine. Au nom de quoi vous vous éloignez d'Allah? Au nom de quoi une personne délaisse les ordres d'Allah? Qu'est-ce qui fait qu'une personne peut franchir les limites et aller vers le haram? Et là, si nous ramenons le discours vers les croyants, à partir du moment où on a conscience qu'il y a une limite entre ce qui est licite et illicite, et chaque croyant se doit d'apprendre ce qui est nécessaire pour vivre conformément à la religion d'Allah. C'est-à-dire connaître ce qui est halal, ce qui est haram, ce qui est toléré de ce qui n'est pas accepté par Allah. Et donc, quelqu'un qui connaît que telle chose est interdite, comment est-ce qu'une personne peut franchir le cap, dépasser la limite et accomplir le haram? Tout en sachant que quand je franchis cette frontière, je suis du mauvais côté. Je fais partie des gens qui vont encourir à la colère d'Allah. Tandis que si je reste au-delà de la frontière, je reste dans le ta'a, dans l'obéissance. Mais si je le franchis, je fais partie des pécheurs et peut-être même des foussafs, des pécheurs endurcis. Mais qu'est-ce qui fait qu'une personne qui connaît les ordres d'Allah et les interdits d'Allah, néglige les ordres d'Allah et accomplit ce qu'Allah a rendu haram? C'est la plus grande des inconsciences. C'est plus inconscient encore qu'une personne qui, je ne sais pas, qui a un problème de santé particulier et qui prend un aliment, qui consomme quelque chose qui est mauvais pour sa santé. Un exemple, quelqu'un qui a le diabète par exemple,
il sait qu'il n'a pas le droit de manger du sucre ou autre chose, et qu'il va manger plein de choses mauvaises qui va lui causer plein de soucis. On va dire que mais c'est inconscient, ce n'est pas quelque chose à faire, mais pareil. Voilà quelqu'un qui donne à un enfant, un bébé, quelque chose que, matière solide, que s'il mange, il peut s'étrangler et mourir. Il dit, mais quel parent inconscient ? On se rend compte que cette personne ne comprend pas ce qu'il est en train de faire. Mais celui qui connaît ce qui n'est pas bien et qui connaît ce qui est obligatoire, mais ne le fait pas, ou fait ce qui est haram, c'est de l'inconscience. C'est pour ça qu'Allah interpelle, ô être humain, ô homme, ya yuhal insan, ou ma gharraka bi rabbika al-karim, qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur, le noble ? Al-Karim. Karim était traduit par noble, mais Karim veut dire également généreux. C'est-à-dire qu'en plus, l'être humain doit prendre conscience qu'Allah est généreux. Karim, c'est celui qui donne, qui aime pardonner, qui tend sa main pour que l'être humain vienne vers lui. Vous savez que la dernière partie de la nuit, Allah subhanallah accepte les personnes qui lèvent les mains, qui demandent istighfar. Hal min mustaghfirin. Y a-t-il des gens qui demandent pardon pour que je lui accorde le pardon ? Le matin jusqu'au soir, Allah également, Azza wa Jal, accepte les gens qui lui demandent tawbah. En plus, Allah est Karim. Comment est-ce qu'une personne peut rester éloignée de la rahmat d'Allah alors qu'il y a tellement d'occasions pour se rapprocher d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ce Allah Azza wa Jal, celui qui, alladhi khalaqaka, fasawwaka, fa'adalak, celui qui t'a créé, puis modelé et constitué harmonieusement. Ces versets-là parlent de la création d'Allah. On avait expliqué la dernière fois qu'Allah Azza wa Jal a créé l'être humain de la meilleure des façons. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ. Allah a créé, a honoré l'être humain. La création de l'homme, du corps humain, c'est une création qui est parfaite, coordonnée par Allah. Cette symétrie, cet équilibre, le nombre de membres, le nombre d'articulations, subhanallah, avec un corps qui est parfait, parfait dans le sens où il est autosuffisant. Hein, vous vous blessez, subhanallah, vous n'avez pas besoin de passer une commande pour avoir de la cicatrisation, commander un échantillon de peau pour recoller, là wallah, quelqu'un se blesse, subhanallah, il regarde quelques temps après, hein, le sang va s'épaissir un petit peu, d'accord, va coaguler, les vaisseaux vont se refermer, la peau va se reformer, tout ça, ça a été créé par Allah. Si vous frottez votre voiture contre un robot au trottoir ou quelqu'un, hein, il s'accroche à votre pare-choc ou autre chose, est-ce que ça va se reformer ? Non, ça c'est dans les films, ça. Mais dans la réalité, non. Il n'y a aucune matière qui se résorbe, qui se reforme, à part ce qui a été créé par Allah Azza wa Jal. Quand les animaux, hein, l'exemple est décalé, les animaux ils se battent dans la jungle ou autre chose, ils se blessent, ils saignent. Est-ce qu'ils vont voir un vétérinaire ? Non. Ils sont dans la jungle, mais subhanallah, Allah a créé la création d'une manière générale que tout peut se résorber, se réparer tout seul. C'est la perfection de la création d'Allah. Maintenant qu'on parle de insan, l'être humain, la création de l'homme, c'est encore plus pointillé, encore plus parfait. Parce que l'homme, en plus d'avoir le corps physique, a eu l'aql, l'intelligence, et la possibilité de faire des choix. Donc ça, on ne va pas revenir trop sur t'as créé, modelé et constitué harmonieusement. Et on avait cité, ça avait un petit exemple, on a vu dans un reportage une fois à la télé, subhanallah, des personnes hein, qui ont recours à la chirurgie esthétique, pas tout. Ils vont refaire le nez, refaire le front, refaire le pli, refaire... Et une personne disait que je ne suis pas satisfait de mon corps. Allahu Akbar. Allah t'a créé comme ça, tu n'es pas satisfait de ton corps. Une fois, en Arabie Saoudite, il y avait... Enfin, ça c'était un peu l'habitude là-bas. Quand il y a un grand médecin hein, étranger qui vient, ben, on fait i'lan, enfin il y a des panneaux publicitaires, que tel grand docteur qui vient d'Amérique ou de France ou je sais pas de tel endroit, il est là, il est spécialiste dans tel domaine, ben voilà, il consulte tel endroit. Une fois, j'avais vu qu'un chirurgien esthétique, il vient de je ne sais pas quel pays, et ils avaient écrit, c'était faute de aqida énorme, hein, dit que l'il uyoub al khalqiya, pour ceux qui ont des défauts, hein, qui ont des, comment on pourrait dire ça, qui ont des malformations, hein, pour ceux qui ont, voilà, qui se plaignent un petit peu de leur esthétique ou autre chose, uyoub, c'est-à-dire un manque, et khalqiya dans la création. Là, wallah, comme Allah a créé, c'est la création d'Allah. Et donc, des personnes qui font preuve d'ingratitude, hein, ils ont besoin de refaire ça, alors qu'Allah Azza wa Jal a créé l'homme de la meilleure des façons. Et regardez, Allahu Akbar, quand on analyse la grandeur d'Allah dans la création, vous savez que, peu à peu, dans les différents systèmes de sécurité, par rapport au passeport, par rapport à autre chose, bientôt, enfin, en ce moment, on peut reconnaître une personne par son empreinte digitale. Et vous savez qu'il n'y a pas deux créatures, deux êtres humains qui ont la même empreinte. Même votre fils, Même votre frère jumeau, il n'a pas la même empreinte. Allahu Akbar, combien de milliards d'êtres humains qui sont venus de la dunya depuis Adam alayhi salam, ils ont des empreintes différentes. Il n'y a pas un qui a le même empreinte. Mais ça, c'est pas ajib, ça? Et qui c'est qui a strié ça? Ainsi comme ça, ainsi comme ça. Allahu Akbar. C'est Allah Rabbul Izzah. Et l'être humain qui ne croit pas en Dieu, qui ose dire que ça, c'est, la, c'est quoi? Ils disent dame nature, bien nature, je ne sais pas quoi. Quel aveuglement. Comment est-ce que... Ma gharraka bi rabbikal karim, réellement, qu'est-ce qui fait qu'on on s'éloigne d'Allah à ce point? Et on va même plus loin quand on parle de... Il y a même un système de reconnaissance par rapport à l'iris. D'accord? Par rapport à... Comment on appelle ça? Par rapport aux yeux, on va dire comme ça, l'iris. C'est-à-dire, chaque être humain a quelque chose de spécifique dans ses yeux qu'on ne retrouvera chez personne d'autre. Ça aussi, c'est la création d'Allah. Ajib. Ça, c'est la grandeur d'Allah, de la création. Et nous, quand les scientifiques, ils expliquent ça dans les reportages, les gens se disent, waouh, c'est extraordinaire. Mais nous, ça doit augmenter notre iman. Ça doit renforcer notre iman, notre prise de conscience de la grandeur d'Allah. Comment Allah est puissant pour avoir créé une race humaine avec autant, subhanallah, de déclinaisons. C'est vraiment la création du Seigneur des mondes. « Fi ayy suratim ma sha'a rakkabak » Ça rejoint le verset de tout à l'heure. « Il t'a façonné dans la forme qu'il a voulu. » Donc, ça, c'est le même groupe de versets. « Kalla bal tukadhibuna bid-din » Non, malgré tout, vous traitez la rétribution de mensonges. « Wa inna alaykum la hafidhin » Alors que veille sur vous des gardiens. « Kiraman katibin ya'lamuna ma tafa'aloun » De nobles scribes qui savent ce que vous faites. Là, on est à une autre étape où Allah Azza wa Jal rappelle et interpelle les personnes qui ne croient pas à la rétribution. Alors que auprès de chaque être humain, il y a ces créatures, ces malaïkas qu'Allah Azza wa Jal a créées pour inscrire l'intégralité des actions et des paroles prononcées par chacun d'entre nous. Kallabal tukadhibuna bid-din. Et on avait vu également cette règle que celui qui ne croit pas en l'au-delà ou qui a une faiblesse dans son iman bil yawm il akhir, la foi sur l'au-delà, ça veut dire qu'il aura une faiblesse dans la foi en Allah. Et la raison de notre éloignement ou l'éloignement de certaines personnes du din d'Allah, c'est parce qu'on ne croit pas réellement à l'au-delà. On va dire, oui, mais si quelqu'un ne croit pas à l'au-delà, il est kafir, bien sûr, parce que ça fait partie des six piliers de la foi. Mais on peut croire à l'au-delà d'une manière générale, sans vraiment être persuadé, malheureusement. C'est pour ça que la clé pour avoir la réussite dans la foi, pour vraiment être un bon croyant, c'est de développer les aqidah, les croyances, et parmi les croyances, donc les six piliers de la foi. Parce que quelqu'un qui approfondit ses connaissances sur la résurrection, sur les étapes de l'au-delà, la remise des livrets de compte, le passage sur le sirat, le mizan, la balance, et ainsi de suite, la description du paradis, la description de l'enfer, assurément, ça augmente son iman, bien sûr, mais en plus de ça, ça va le motiver à accomplir de bonnes actions. Parce que quand quelqu'un, il se dit que demain c'est samedi, je suis fonctionnaire, je ne travaille pas, je règle mon réveil pour 9 heures, musulman, qui lorsqu'il se couche le soir, il règle son réveil pour 9 heures parce que demain c'est samedi ou bien demain c'est dimanche. Cette action, ce raf-là, cette insouciance est une preuve claire qu'il ne croit pas réellement à l'au-delà. Il y croit d'une manière générale comme tout musulman, mais il n'a pas une conviction qu'un jour je serai devant Allah. Parce que ce croyant qui est persuadé que le jour des comptes, je reçois mon livret de compte, soit de la main droite, soit de la main gauche derrière mon dos, qu'Allah nous protège, cette personne-là, il sait que la négligence d'une salah, ça peut être la cause de destruction. Celui qui est persuadé que le jour des comptes, les actions seront présentées auprès d'Allah, la personne doit savoir que la première chose à propos de laquelle le croyant sera interrogé le jour des comptes, c'est an salatiha, c'est ses prières. Atamma, est-ce qu'il les a complétées ou il y a un manquement? Celui qui est conscient de cette étape où les anges vont examiner mon livret de compte pour trier mes prières, pour voir s'il n'y a pas un manquement, celui qui en est conscient, il ne rate pas délibérément une salah. Celui qui rate volontairement une salah, qui prévoit de ne pas faire la salah, c'est qu'en réalité, il n'y croit pas. Il se dit musulman, il sait qu'il y a l'au-delà, mais comme il a quasiment aucun ilm, aucune connaissance des étapes de l'au-delà, il vit dans un rafla de l'insouciance et ses manquements dans la religion sont la preuve qu'il ne croit pas réellement ou que sa foi en l'au-delà est naqis, est faible et qu'il y a énormément de manquements. Donc la règle c'est quoi? C'est plus on va connaître l'au-delà et les étapes, plus on aura la motivation pour accomplir de bonnes actions et on ressentira, on réalisera le danger des péchés. Il nous sera plus facile pour faire les ibadah, l'adoration d'Allah, et il nous sera difficile de désobéir à Allah Azza wa Jal parce que nous sommes conscients des conséquences des actions ou de leur récompense le jour des comptes. C'est pour ça qu'on avait cité aussi pas mal de fois durant le mois de Ramadan le verset Lais al birra an tuwallu wujuhakum. On avait dit que dans ce verset, hein, on voit que walakin al birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin, que la plupart du temps lorsqu'Allah cite iman billah, il y a iman bil yawmil akhir, parce que les deux sont mutalazim, les deux se complètent. Pour croire vraiment en Allah, il faut croire au jour des comptes. Autrement, notre iman en Allah sera naqis, il y aura donc toujours un manquement et les actions ne vont donc pas suivre. Donc alors que wa inna alaykum lahafidhin, comprennent conscience, et ça c'est très important, prendre conscience qu'on a deux anges qui nous accompagnent jusqu'à la mort, qui restent avec nous jusqu'à notre mort pour inscrire moindre parole, moindre action. Et selon certaines sources, il même dit que les pensées de l'homme sont connus par les anges qui inscrivent. Par exemple, je fais une action par ostentation. Ou alors, dans mon cœur, je vois quelqu'un qui a des choses qui m'intéressent, et dans mon cœur, j'éprouve de la jalousie. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Non. Est-ce que j'ai fait quelque chose? Non. Il y a de la jalousie dans mon cœur, c'est un péché. Et le péché est considéré comme péché par ces malaïkas. Donc, prendre conscience, subhanallah, qu'on doit avoir un muraqabatam, un contrôle total sur ce que je dis, sur mes actions et même mes pensées. Je dois faire en sorte que ce cœur devienne propre. Et donc ce jeune qui, le samedi, à 18h, il fait mashwara avec ses amis pour voir dans quelle boîte ils vont aller le soir, qu'est-ce qu'ils vont faire, avec quelle fille ils vont sortir et à quelle heure ils vont rentrer et comment ils vont terminer la soirée, si seulement il prenait conscience que « wa inna alaykum la hafidhin, ô croyants » Retenez qu'il y a des anges qui sont là pour inscrire kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun. Lorsque je suis avec mes amis, hommes ou femmes, d'accord, que ce soit les messieurs, que ce soit les dames, et qu'on commence à parler d'une personne, à citer ses défauts, à raconter l'historique de sa vie, de ses manquements, de ses erreurs, de le passé, que la personne prenne conscience que ça c'est le riba, c'est grave, les anges sont là, ils sont en train, si on est à 5, à 6, ils sont tous en train d'écrire les ribas qui sont en train d'être accomplis dans ce majlis. Si j'étais conscient de ça, j'aurais dit tout de suite à mes amis, hop, on arrête tout de suite. Je ne suis pas avec vous de cette conversation. On parle d'autre chose où je m'éloigne de cette assemblée parce qu'on est en train de faire le riba. C'est comme si on consomme de la chair de notre frère qui est mort. Alors que non, quand il commence à parler de quelqu'un, Madja, là on aime, on va dire tout ce qu'on connaît et on va essayer de faire rire les gens sur le dos de quelqu'un. Il n'y a pas de prise de conscience que les malaïkas sont là. Et les savants disent également, celui qui croit à l'iman bi malaïka, c'est partie des six piliers de la foi, croire aux anges. Ben nous, quand on dit croire aux anges, c'est que ben Allah crée des anges. L'ange Jibril a amené le Coran pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a l'ange qui amène la subsistance. Il y a l'ange qui souffle dans la corne, la trompe, on va dire, le joie des comptes. Il y a malaïka al-maut. Ben c'est tout. Chacun fait son travail. Qudrat d'Allah. Il n'y a pas que ça. Croire iman bi malaïka, ça va compléter iman billah. Parce que celui qui croit, qui prend conscience, par exemple, de cet exemple précis, qu'on a des anges qui sont là, qui inscrivent les actions, bonnes comme mauvaises, ben ça va me motiver à faire les bonnes actions, à obéir à Allah. Et ça va me freiner dans l'accomplissement des péchés. Et croire aux anges, ça nous donne une stabilité, istiqama de la foi. Ce croyant qui, malheureusement, durant le mois béni, Ramadan, il vient, il fait de bonnes choses, alhamdoulilah, qu'Allah accepte. Mais que dès que le mois est terminé, il retourne vers ses erreurs. C'est qu'il n'est pas conscient que les anges sont là. Les anges ne viennent pas durant le mois de Ramadan et ils repartent, non. Ils sont là en permanence. C'est ça, et ça, ça prouve cette incohérence qu'un moment de l'année, on obéit à Allah et puis le reste du temps, on n'obéit pas à Allah. Cette incohérence, cette contradiction prouve bien que je ne crois pas réellement aux anges. Ou alors mon iman bil malaika, ma foi sur les anges, est naqis également, est incomplète, il manque énormément de choses. D'où l'importance de développer les piliers de la foi pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ هَذَا. Et par rapport au hadith concernant les intentions, le prophète dit: مَنْ هَمَّ بِالْحَسَنَةِ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ حَسَنَةِ. Celui qui a l'intention de faire une bonne action, mais qui ne peut pas l'accomplir, Allah ordonne aux anges d'inscrire la bonne action. Un exemple, on est en train d'écouter Majlis, l'assemblée, et j'ai l'intention que quand l'assemblée est terminée, je fais deux rakat nafil avant de rentrer chez moi. Mais au moment où le majlis se termine, ils éteignent les lumières, donc je dois sortir. Mais j'avais l'intention de faire la bonne action, je n'ai pas pu le faire, Allah m'a déjà accordé la récompense. Ça c'est la générosité d'Allah. وَمَنْ هَمَّ بِالسَّيِّئَةِ وَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ حَسَنَةً كَامِلًا. Celui qui a l'intention de faire un péché et qui ensuite ne l'accomplit pas. Il voulait faire un péché et puis il se dit que non, ce n'est pas bien, je ne vais pas faire ça. Ben Allah est satisfait de son choix parce qu'il est éprouvé de la crainte d'Allah en ce moment et Allah Azza wa Jal ordonne aux anges d'inscrire pour ce serviteur une bonne action. Alors qu'il n'a rien fait. Il s'est juste détourné d'une mauvaise intention. Allah est tellement satisfait qu'Allah ordonne aux anges d'inscrire cette réaction comme étant une bonne action. On va terminer, on va clôturer par un hadith de Ibn Kathir, rahimahullah, rapporté par Ibn Kathir, de lequel il dit Hadith an Abi Hurayrata radiallahu anhu qal قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما جي إن ملائكة الله يعرفون بني آدم جي كل الملائكة يكنس les êtres humains ويعرفون أعمالهم يكنس les actions qu'on accomplit فإذا نظروا إلى عبد يعمل بطاعة الله lorsqu'ils voient un croyant qui est en train d'obéir à Allah. Comme nous on est en train d'obéir à Allah là, oui ou non? Assemblée où on parle d'Allah, c'est la meilleure des assemblées où on parle du dîne d'Allah. ذكروه بينهم وسموه. Ils citent ces personnes, ils vont citer Ismaïl, Abdullah, Ishaq, Anwar, Ibrahim dans les assemblées des malaïka entre eux, subhanallah, وسموه, en citant le nom de la personne. Sinon on sait que au parlement quelqu'un est en train de parler de moi, dit, ah oui ben je suis quelqu'un quand même, on en est fier, il n'y a pas de quoi être fier, mais dans les assemblées des malaïka le nom de la personne est cité. Et là, ils disent « Aflaha laylata fulan »« Najal laylata fulan » dit que cette nuit, telle personne a obtenu les plus belles choses. Il a eu le succès. Et quand les malaïkas, ils voient que quelqu'un, par exemple, la nuit, subhanallah, il a fait salat al-isha en congrégation. Il se couche, il se réveille à 4h, 4h30. Il fait la prière de la nuit et puis il a fait le fajr. Il parle entre eux, disent ce musulman-là, Allah Akbar, cette nuit, il a eu telle chose. Donc, il vante les mérites de cette personne. وَإِذَا نَظَرُوا إِلَىٰ عَبْدٍ يَعْمَلُ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ ذَكَرُوهُ بَيْنَهُمْ وَسَمَّوهُ وَقَالُوا هَلَكَ اللَّيْلَةَ فُلَانٍ. Lorsqu'ils voient quelqu'un faire des péchés, ils en parlent dans leur cercle, ils citent le nom, ils disent que cette personne ce soir a fait une action détestable et détestée par Allah, tel péché. Donc à nous de voir quelle situation on veut vivre. Quel genre de musulman je veux être? Celui qui fait de bonnes actions et que les anges, mashallah, parlent de nous, ou celui qui va vers les péchés et que même les malaïka parlent de cette personne comme étant quelqu'un qui désobéit délibérément Allah Azza wa Jal. Hada, le hadith est rapporté par Al-Bazzar. On va s'arrêter là aujourd'hui, inshallah. On voulait faire un récapitulatif de tout la sourate Al-Inqitar, mais ça risque d'être un petit peu long. Mais alhamdoulilah, on est arrivé jusqu'au verset 11. Inch'Allah, vendredi prochain, on va faire du verset 12, Innal Abrara, ou 13 plutôt, Innal Abrara la fi na'im, description des gens du paradis, wa Innal Fujjara la fi jahim, description des gens de l'enfer, qu'Allah nous protège, wa ma adraka ma yawmuddin, et rappelle sur le jour des comptes, et rappelle également qu'en ce jour, personne ne peut profiter, ne peut apporter de l'aide à quiconque, si ce n'est Allah Azza wa Jal, qui prend toutes les décisions. Wal amru yawma idhin lillah, ce verset magnifique qui clôture l'infitat, et ce jour-là, le commandement sera à Allah. Bas, ça nous ramène vers le même verset de Maliki yawmiddin, maître du jour de la rétribution. Et en ce jour, c'est uniquement Allah qui prend les décisions. Et si on est conscient qu'en ce jour, il n'y a que Allah qui prend les décisions, ben nous devons donner l'orientation de notre vie d'une telle façon qu'Allah Azza wa Jal soit satisfait de nous. Pour que lorsque je serai face à Allah, celui qui prend les décisions, ben Allah est content de moi, il me gratifie par son contentement et le paradis. Chers frères, qu'Allah nous accepte notre offrir de comprendre ces quelques paroles, moi-même en premier à nous tous, de propager, de mettre en pratique et donc de faire passer le message à nos mères et à nos sœurs. Demandons beaucoup de doigts pour nos enfants en ce début d'année scolaire. Il y a un mois à peu près, trois semaines, un mois de la rentrée. Vous savez le nombre de fitna, le nombre de sources d'égarement, de turpitude, de blâmable qu'il y a au sein des collèges, des lycées, les sources de péché, l'adultère, le zina, l'appel vers l'alcool, la consommation de cigarettes, de drogue, de zamal, tout ça. Quand on envoie nos enfants dans ces endroits, Allahu Akbar, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. On peut avoir des enfants, mashallah, avec une bonne éducation, bien cadrés à la maison, mais lorsqu'ils sont livrés à un groupe de personnes qui n'ont pas iman en Allah, qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Quelles peuvent être leurs réactions? La seule chose qui peut les protéger, c'est nos doigts. C'est qu'Allah leur accorde la protection par, inshallah, les doigts des parents. Vous savez que le doigt du père, principalement, est accepté par Allah pour ses enfants. Donc, on doit régulièrement, il ne faut pas qu'on demande juste à Allah d'avoir beaucoup d'argent, d'avoir beaucoup de facilité, et tout ça. C'est bien, mais demander à Allah également protection pour nos enfants, que malgré l'environnement dans lequel nous vivons, avec les fitanes, etc., malgré ça, que nos enfants restent dans le droit chemin. Allahumma amin. Jazakumullah khair.